Bonjour Charlie.
Bonjour Maude.
Bienvenue dans Figure de dépendance.
Un balado qui mêle art, documentaire et médical.
Cet épisode est proposé dans le cadre de la diffusion du 6e et dernier webinaire du colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes, dont le sujet sera le cadre réglementaire.
Le sujet que nous avons choisi d'aborder dans ce cadre est celui de la prison. Nous nous sommes demandé quels services les personnes ayant un traitement de substitution aux opioïdes reçoivent quand elles ou ils s'y trouvent.
L'exercice de la médecine en milieu répressif pose de nombreux défis. Les équipes soignantes qui œuvrent dans les centres de détention doivent ajuster leurs valeurs aux règles de sécurité du milieu.
Salut, moi c'est Moonlight Wolf, 13e du nom. c'est ça. Fait que ça a l'air que je suis là pour vous parler de détention puis de toute la scrap qui se passe là-dedans.
Toi, la première fois que t'es rentré en détention, est-ce que tu consommais déjà des opioïdes?
Ouais. Mais j'étais vraiment plus accro de l'alcool parce que l'alcool, c'est le feeling le plus proche. Se passer out sur l'alcool, c'est le feeling le plus proche de se passer out sur Adilo. Fait que j'étais plus dépendant de l'alcool, mais je faisais des opioïdes aussitôt que j'en avais dans mes mains. Là. Je laissais la vie m'en amener, je courais pas après, mais la vie m'en amenait assez souvent. Là.
Puis quand t'as été en détention, est-ce que la vie t'amenait des opioïdes?
Il y en avait pas dans ma wing, il y en avait dans d'autres wings, puis c'est tellement précieux les opioïdes que puis ça vaut tellement cher. Que soit que celui-là qui les a le dit pas à personne parce qu'il sait qu'il va se faire tanner puis qu'il va se faire harceler pour en avoir, soit que celui-là qui les a, il se fait de la grosse publicité puis c'est acquis au plus offrant qu'il les laisse au plus offrant.
Toi, est-ce que t'as déjà été détenu après? T'as-tu eu d'autres périodes de détention ouais. Où là, t'étais plutôt ben, si t'avais besoin de ouais, des opioïdes
quand toujours? J'ai été la deuxième fois, j'ai été chanceux, je faisais des fins de semaine puis là, j'avais mon traitement à méthadone. Puis je me suis fait offrir, genre, de m'en garder dans la gueule pour en laisser à du monde. Sauf que vu que j'étais dans une petite cellule, puis que j'étais un peu l'alpha, si on peut dire, ben j'étais capable de refuser sans trop me faire tanner. Mais ça paraissait que ceux qui étaient avec moi le matin, que je prenais ma méthadone, ils m'enviaient tout un peu parce que... Ben, c'était dans le temps que ça me faisait encore un effet, là. Tu sais, après un certain temps, ça fait plus rien. C'est comme se lever le matin et puis boire son jus d'orange, là. Mais c'est ça, c'était dans le temps que ça me faisait encore un effet. Puis merci bon Dieu, parce que ça a passé plus vite, là. Juste les fins de semaine, c'est quasiment pire que faire du vrai temps, parce que on est enfermé dans une petite cellule, puis on est comme 8 là-dedans. Puis il n'y a pas de TV, il n'y a rien à faire, tu sais. Des fins de semaine, ils te laissent ton crayon, d'autres fins de semaine, ils te le laissent pas. Fait que les mots cachés, tu le sais pas si tu vas pouvoir les faire. Le dessin, tu sais pas si tu vas pouvoir le faire. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire. Fait que c'est sûr que moi, je me smashais comme faut avant de rentrer. Ben, tu sais, je prenais ma méthadone, puis mes séroquels du soir, disons que j'y prenais le matin pour pouvoir dormir toute la journée, puis on s'attire, c'est ça. Tout le monde en prison, tout ce qu'ils veulent, c'est faire que le temps il passe le plus vite possible. Puis, ben, les opioïdes, c'est plate à dire, mais c'est l'affaire qui fait passer le temps le plus vite sur Terre. Puis, ceux qui souffrent de l'absence de leurs proches ou de l'absence, ben, c'est souvent ça, là, de l'absence de leurs femmes ou de leurs enfants, ben, c'est clair que c'est eux autres qui vont être prêts à payer le plus cher pour les opioïdes parce qu'ils souffrent de leur cœur puis ils souffrent. En même temps, c'est souffrir d'être en dedans et de ne pas avoir de liberté. Là. Tu souffres du manque de liberté puis tu souffres de la présence de des personnes que t'aimes. Fait que c'est ça, ça enlève pas juste le mal du corps, les opioïdes, ça enlève le mal du cœur. Puis c'est pour ça que ça vaut si tant cher en dedans.
Plusieurs chercheurs, philosophes et nombreux professionnels des milieux de la santé, des services sociaux et judiciaires sont interpellés par la question de la récidive. Aussi, des programmes spécifiques regroupant différents corps professionnels proposent depuis une quinzaine d'années au Québec une alternative pour les personnes ayant commis des délits mineurs. L'une de ces alternatives se nomme « Programme d'accompagnement justice et santé mentale », on dit plus couramment le programme PAGE-SM.
Marie-Pierre Rioux est criminologue. Elle a travaillé de nombreuses années dans les milieux correctionnels et comme intervenante en toxicomanie dans le réseau de la santé publique. Depuis la dernière année, elle participe au déploiement du programme PAGE SM dans la région du Bas-Saint-Laurent, avec d'autres professionnels dont des psychiatres du centre hospitalier.
Bien, en fait, le programme, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même récent, c'est depuis 2008. Il a été installé à la Cour criminelle du Québec à Montréal pour justement permettre aux gens qui n'étaient pas nécessairement des trajectoires délinquantes à 100 %, là, que c'était vraiment plus des gens qui marchaient sur la ligne de la dépendance, de la santé mentale et de la criminalité. Puis c'était beaucoup le problème de santé mentale qui amenait à un comportement répressif, dans le fond, par le code criminel. Donc, ce que les gens à Montréal ont décidé avec la Cour du Québec, c'était d'offrir ce programme-là. Le programme vise vraiment à permettre aux gens qui ont commis un acte délictuel sommaire, donc dans le fond, c'est une infraction sommaire au code criminel. Dans le fond, on voit de fait, méfait, menace, harcèlement, possession simple. C'est vraiment sans violence non plus, puis sans lésion. Là, tu sais, des voies de fait avec lésion, ça pourrait pas être inclus au PAGE SM. De bénéficier d'une trajectoire particulière qui leur permet vraiment de travailler leur force, de se réinsérer au niveau social. Ça permet vraiment là, d'humaniser le système de justice. Donc, ce qu'on permet, c'est que les gens puissent reprendre un contrôle dans leur vie puis se rendre compte que la délinquance a été causée par des facteurs sociaux, des facteurs de santé mentale, de pauvreté, de toxicomanie, mais ce n'est pas nécessairement une frange délinquante là, franche. Donc, on est vraiment, on les accompagne à travailler sur les risques de récidive délictuelle, puis traiter aussi l'élément au niveau de la santé mentale. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut vraiment que le délit soit en lien avec le problème de santé mentale. Donc, une fois qu'on a évalué la personne, selon les critères d'admissibilité, donc d'être un adulte, d'avoir un problème de santé mentale diagnostiqué ou non, de vouloir aussi participer au programme parce que c'est 100 % volontaire. La personne, du jour au lendemain, peut décider de ne pas y participer puis elle va retourner à la trajectoire judiciaire régulière. Et aussi de vouloir s'investir dans un suivi psychosocial parce que nous, on va beaucoup travailler sur les facteurs criminogènes. Qu'est-ce qui a amené la personne à faire un délit? Est-ce que c'est justement parce qu'elle était tellement souffrante, des mécanismes d'adaptation des fois qui sont tellement intégrés que la personne est en mode survie? C'est pas que c'est une délinquante structurée, c'est plus parce qu'elle était en mode de survie, comme je disais, par rapport à la situation. Donc, une fois que la personne est admise au programme, il y a aussi l'élément central, c'était de lui permettre de reprendre un contrôle dans sa vie. Donc, on regarde avec elle les besoins qu'elle a dans le ici et maintenant pour aller mieux puis éviter une récidive délictuelle.
Nous avons interrogé Marie-Pierre sur les traitements de substitution et la formation des équipes en milieu carcéral.
Non, ben moi, quand j'étais en milieu carcéral fédéral, c'était vraiment des infirmières à l'interne qui travaillaient là-bas, qui étaient vraiment basées là. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était beaucoup en lien avec si la personne était déjà sur un traitement de substitution à l'extérieur, il y a un lien qui se faisait. Donc, c'était une poursuite, puis s'il y avait une induction à faire, elle pouvait se faire avec le médecin qui se rend sur place et l'infirmière qui est sur place. De là à dire que c'est une clinique, je pense pas. Je pense qu'on a un gros travail à faire d'enseignement, de sensibilisation auprès des gens qui sont intervenants dans le milieu carcéral. Puis je pense que de le faire aussi en partenariat avec les gens qui sont à l'externe, je pense qu'il y a comme une coupure qui se fait entre Je suis en dehors, puis je suis en dedans, tu sais. Je suis en prison, il se passe ça, mais quand je sors, on dirait que tout s'arrête. Mais il devrait avoir un filon conducteur entre les deux, tu sais. Ça devrait être, tu sais, une chronologie d'événements et non pas des successions de... J'ai fait 5 ans en prison, je suis sortie 1 an. Tout ce que j'ai fait pendant 5 ans a comme recommencé en sortant. Qu'il y ait une belle transition qui se fasse pour justement favoriser la réinsertion puis éviter les portes tournantes. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des courts séjours, on le voit beaucoup au provincial, ils vont faire 3 semaines, je ressors, dans 6 mois, je retourne faire 1 mois, je reviens, ah, je vais faire des peines discontinues, je ressors. Mais ça, c'est pas aidant pour la personne. Ça fait juste en rajouter à sa feuille de route carcérale, donc le plumitif se rallonge. et les services ne sont pas mis en place. La personne baigne encore dans sa structure délinquante avec les services qu'elle n'a pas. Parce que quand elle va en prison, on ne va pas nécessairement mettre en place plein de services. Elle va faire son temps, comme elle dit, puis elle va sortir. Puis elle va recommencer ce qu'elle faisait, probablement. Puis des fois, ils vont avoir déjà pris des contacts entre les murs, fait qu'ils vont continuer, puis elle va être avec peut-être plus de contacts aussi pour poursuivre ce qu'ils faisaient avant. Donc, je pense que ce soit au provincial ou au fédéral, on va vraiment être gagnant à rimer avec les partenaires de la justice et de la santé. Puis le PAGSM, c'est vraiment ça, là.
Dans la mythologie grecque, le Tartare est né du chaos. Région aride, brumeuse, sans vie et monotone, faite d'étangs glacés et de lacs de soufre. L'endroit est entouré par des fleuves aux eaux boueuses et à l'odeur nauséabonde. Le Tartare était une prison, située dans les entrailles de la terre. Et on dit qu'elle était si profonde que si on laissait tomber une enclume de la surface, elle mettrait 9 jours et 9 nuits avant d'arriver. Là-bas, y étaient enfermées des personnes ayant commis des fautes impardonnables ou ayant défié les dieux. En plus d'être enfermés, ils étaient condamnés à répéter jour après jour un terrible supplice. Sisyphe, condamné à pousser un rocher tout en haut d'une colline avant de le voir redescendre et de recommencer. Ixion, condamné à être attaché à une roue enflammée qui tourne et qui tourne sans cesse. Tityos, condamné à avoir le foie dévoré par 2 vautours pendant la journée. La nuit, son foie se régénérait et le lendemain, son supplice recommençait. Les Danaïdes, condamnés à remplir d'eau des jarres percées, ou encore Tantale, condamné à avoir faim et soif pour l'éternité. Le Tartare est un mythe, bien sûr. Un mythe particulièrement cruel. Mais c'est peut-être un bon prétexte pour se poser la question. La prison sert-elle à protéger, à guérir ou à punir les individus?
Comme vous l'avez entendu dans les précédentes entrevues, il existe au Canada 2 systèmes d'emprisonnement parallèles, la prison provinciale pour les peines de 2 ans moins 1 jour et les pénitenciers fédéraux pour les peines plus longues.
Nous avons rencontré Raven, qui a passé plusieurs années en détention et a été incarcéré dans les 2 milieux. Il a accepté de nous partager son expérience.
Et là, comment ça s'est passé? Là, à ce moment-là, tu consommais des opioïdes?
Oui.
Quand tu es rentré en prison?
Oui.
Comment ça s'est passé?
J'étais chanceux, j'ai tombé avec un de mes frères. Mes mères. Lui, il avait une prescription pour hydromorphine. 2 18 par jour. Comme ça, moi, je le tatouais, puis lui, il me fournissait, moi, 18 par jour. Ça, c'est comment j'ai réussi d'avoir mon hydromorphine, même en prison.
Est-ce qu'en prison, quand t'es rentré, il y a eu une évaluation médicale ou infirmière?
Ah, rien de ça.
Qui a été fait?
Non. Au provincial, si t'as pas une prescription vraiment pour hydromorphine, Anavan, Levitrim, toutes les narcotiques, si t'as pas de prescription pour ça, t'auras jamais une prescription par un médecin de prison pour ça. Une chance sur 10, quelqu'un va te donner un Valium. T'es chanceux. Dans les pénitenciers, dans les fédérales, les maximums, la drogue de choix pour la consommation de quasiment tout le monde, c'est de l'héroïne. Les gars se disent, c'est la drogue le plus petit. 1 gramme, c'est pas beaucoup. C'est facile à cacher pour rentrer. Puis 1 gramme vaut 1 000 $. Comme ça, si tu rentres 10 grammes, t'as 10 000 piastres, là. Puis je connaissais des gars qui rentraient 10 grammes aux 2 semaines. Fidèles à ça. Mais accrochés, mais trafiquants aussi, you know? Faut qu'ils gagnent. Ben, faut qu'ils payent son consommation parce que en dedans, c'est 100 piastres du point 1. C'est 1000 piastres un gramme, là. Comme ça, sors ton cash si tu veux ça. Là. J'étais à La Claire. La Claire, c'était le pénitencier des Hells Angels. j'étais avec les autres. Puis mon agent de probation s'en vient me demander des questions. Elle dit connais-tu des informations de quoi ce qui se passe tantôt? Je dis non. Quoi ce qui se passe? Elle dit il y a dormait de la ruine dans la place, il y a de la ruine partout. Je dis je sais pas. Il y avait eu tellement un boom d'héroïne dans la place, les gars donnaient de l'héroïne à tout le monde pour les accrocher. Mais dans la situation-là, c'est pas un... Les gars qui gèrent ça, c'est pas dans le but de consommer. Les autres, c'est de l'argent, là. C'est les autres qui mènent. C'est les autres qui rendent leur prison, qui mènent tout, là. C'est dedans.
Et au niveau des personnes qui s'injectent, est-ce que... Il y a un programme d'échange de seringues. Est-ce que le personnel de la détention fournit des seringues stériles propres aux
personnes? Pas que j'ai vu, non. J'ai rien vu de ça. J'ai vu des gars voler des syringes de l'infirmerie. Et je n'ai vu faire rentrer de dehors.
Okay.
Mais j'ai jamais vu aucune institution donner des aiguilles.
Est-ce que tu as vu des accidents, des personnes... qui, justement, se sont piqués sur des vieilles seringues qui traînaient à quelque part dans la prison.
C'est parce que ça, c'est un gros sujet, hein? Parce que ça, c'est un junkie, hein, qui touche à ça. Un junkie, dans les yeux de le monde en général, même en prison, c'est le pire rapace qu'il n'y a pas. C'est un junkie qui se pique. Comme ça, si t'es junkie, tu veux même pas le monde savoir que t'es junkie là-dedans. T'es mieux de pas être un junkie. Personne ne voudra rien faire avec toi. T'es jugé, condamné comme un rapace.
Même entre les consommateurs?
Si tu chokes, mais si tu sniffes ou fumes, chase the dragon, heroin, c'est correct, ça passe.
Oui, mais c'est intéressant, ça veut dire que la personne qui s'injecte, même dans un milieu de consommateur, ouais,
il se fait rejeter.
Il se fait rejeter, ouais. Et il est stigmatisé comme, ouais, étant pire
que tout le monde.
Que les autres.
Oui. Ouais. La drogue, c'est une évasion. Tu vas vivre routine, tu vas vivre structuré, t'es contrôlé, tes mouvements sont contrôlés. T'es pas libre. À un moment donné, t'accumules tellement de haine, colère, ben des affaires, tu te fais écœurer par des screws, ils font un compte à l'heure, ils sont à ta porte à l'heure, tu reposes jamais. Même quand tu dors, ils sont là avec un flashlight. À un moment donné, c'est du jour, le psyché, ça joue.
Puis, sur
le moral.
Le moral.
Oui. C'est une évasion. La drogue, c'est une évasion.
Nous remercions, par ordre de passage, Moonlight 13, Marie-Pierre Rioux et Raven.
Cet épisode a été écrit et réalisé par Maude Leduc-Préfontaine et Charlie Mulot.
Il est financé et commandité par le Comité d'organisation du colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes et produit par notre compagnie, Les Murmures de la Méduse.
Pour ce qui est de la musique, vous avez entendu des œuvres de Tristan Rollin que vous pouvez aller découvrir sur vertebral.bandcamp.com.
Merci pour votre écoute. Et à bientôt.